Donc bonsoir Christophe Boltanski. La cage, c'est le récit de votre histoire familiale, une histoire qui remonte avant votre naissance, donc ce n'est pas une autobiographie. Votre oncle avait déjà fait le récit de l'histoire de ses parents et de son enfance dans La vie possible de Christian Boltanski, sous la plume de Catherine Grenier. Bon, donc c'est aussi quand même en partie votre autobiographie. Vous appartenez à la troisième génération et vous reprenez la même histoire en la prolongeant jusqu'à aujourd'hui. Mais comme vous venez d'avoir le prix Fémina et que vous êtes très médiatisée, je pense que vous en avez assez de raconter cette histoire. Alors, vous avez déjà eu de très bonnes critiques et ces critiques qualifient votre récit de roman vrai ou de vrai roman. Donc oui, tout est vrai, mais en même temps, c'est surtout un très beau texte littéraire, très émouvant, très cocasse. Et si vous le voulez bien, on va commencer par le texte. Donc le titre d'abord, La cache. Cette cache, elle n'est découverte qu'en page par le lecteur, qu'en page 260. Et pour y arriver, on va visiter tout l'appartement, de pièce en pièce, d'un étage à l'autre. Et chaque chapitre débute par un dessin, un plan de l'appartement. Donc, je me suis demandé si inscrire ce récit dans l'espace, façon visite guidée d'agent immobilier, ça vous permet de parcourir 60 années de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, sans respecter la chronologie. Alors, moi, ça m'a fait penser à Georges Perec. Vous citez le jeu, là, le Cluedo. Mais est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est une nécessité d'écriture, l'envie de casser la chronologie, de partir par l'espace?
En fait, c'est une histoire familiale, mais c'est plus encore l'histoire d'un lieu et d'un enfermement, donc de gens qui vivent soudés dans cet appartement. Et donc, il m'a semblé que vraiment, c'était cet appartement-là qu'il fallait explorer. Et d'autre part, j'ai utilisé donc effectivement des souvenirs de famille, mes propres souvenirs, ces histoires qu'on raconte comme dans toutes les familles, dont on ne sait même plus très bien si elles sont vraies ou fausses, des éléments que j'ai également retrouvés. Donc tous ces éléments, essayer de les mettre ensemble hein, pour reconstituer ce lieu. Je les ai utilisés comme des petits matériaux, un peu. Et en plus, comme dans toutes les histoires de famille, il y a énormément de silence, de mutisme, de vide, de mensonges, de mythes, de choses qui ont été réinventées. Et pour relier tout ça, j'ai utilisé effectivement le plan de cette maison. Je crois que c'est Stevenson qui raconte que quand il a écrit son premier roman, qui est L'île au trésor, il a d'abord dessiné le plan de l'île. Et donc, il a dessiné des criques, des montagnes, des petits îlots. Et puis, au milieu de cette île, la cache au trésor, the cache en anglais. Et il dit, quand j'ai fait ce plan, finalement, le plan du livre était fait. Et après coup, on lui a demandé, je crois l'éditeur lui a demandé de refaire ce plan, il l'avait perdu. Et donc il a dû relire son livre pour pouvoir reconstituer ce plan. Et je pense, moi j'ai utilisé ça aussi comme ça. Ces pièces étaient pour moi... je crois que c'est Deleuze qui dit une pièce est comme une boîte à souvenirs. Donc c'est vraiment grâce à ces pièces que j'ai pu retrouver même des choses. C'est presque comme un moyen mnémotechnique. C'est grâce à des objets, à des lieux, à ces lieux que j'ai pu faire revenir des choses qui étaient complètement enfouies ou même que je n'avais même pas vues. Un truc tout bête, c'est on dormait. Moi, pas tout le temps, mais moi, une grande partie de mon enfance, j'ai dormi dans la pièce de mes grands-parents et mon père avant moi, mes oncles, et mon oncle Jean-Élie, quand j'étais petit, continuait à dormir au pied du lit parental. Donc les grands-parents dormaient, ma grand-mère et mon grand-père dormaient avec leurs enfants comme ça à leurs pieds dans une pièce qui était barricadée chaque soir. Il y avait ce rituel du coucher où on mettait une barre de fer pour condamner la porte qui donnait sur l'escalier. Et il y avait aussi un petit passage qui conduisait à une salle de bain où là on mettait le verrou et donc on se claquemurait tous les soirs. Parce que c'était la normalité, je n'avais finalement jamais perçu le côté quand même assez étrange de la chose. Et c'est vraiment en grâce à ce plan-là que ça m'est revenu et que j'ai pu le mettre en scène.
Alors c'est vrai que c'est une famille qui sort très peu de cet appartement, ou alors quand elle sort même pour aller très loin, vous avez fait des milliers de kilomètres dans la Volvo, mais tout en restant confinée dans la voiture, vous racontez ça aussi.
Oui, parce que donc ces gens ont la particularité donc d'être de ne jamais se quitter. Ils sont toujours groupés, donc ils vivent dans cette maison. Il leur arrive aussi de sortir. Il faut quand même bien sortir. Ils ont une vie professionnelle. Enfin, mon grand-père est médecin des hôpitaux, et donc quand quelqu'un sort, tout le monde sort avec lui, l'accompagne jusqu'à sa destination, l'attend et le ramène. Et c'est des heures d'attente. Mon grand-père allait à l'hôpital de la Hennec le matin, et on l'amenait, on l'attendait, il revenait. Et on restait dans cette petite voiture, qui était une toute petite voiture, qui est une Fiat 500. Donc c'est vraiment une sorte de pot de yaourt, comme ça. Ça avait un côté un peu nacelle, vous voyez, côté un peu... Et on restait là à regarder le paysage de la rue jusqu'à ce qu'il ait terminé son travail. Et en vacances, on partait également en voiture, heureusement une voiture plus grande, parce qu'on dormait, l'entre-soi se poursuivait, on n'allait pas à l'hôtel, tout le monde, on dormait la nuit dans la voiture. Et les uns sur les autres, il y avait une planche qui était disposée pour mon grand-père entre la plage arrière et le siège avant où il pouvait s'allonger. Ma grand-mère était sur le siège passager, ma tante sur la banquette arrière, et moi j'étais dans le coffre. Enfin voilà. Et le but du jeu n'était pas tellement de visiter quoi que ce soit, parce qu'on pouvait parcourir comme ça des milliers de kilomètres, mais c'était vraiment de se déplacer et d'être ensemble dans ce déplacement. Donc, comme je décris ce lieu et que chaque pièce constitue un chapitre, le premier chapitre, c'est effectivement cette voiture qui est un peu la partie mobile de la maison. C'est un peu son sas vers l'extérieur.
Il y a un critique qui parle de cellule familiale et qui dit que c'est comme une cellule, comme une prison. Donc, comme vous le racontez...
Cellule dans tous les sens du terme.
Voilà, oui. Mais ça peut faire un petit peu peur, mais en même temps, c'est un livre extrêmement drôle. Et Christophe Boltanski a accepté de lire le début. Donc parce qu'avant de rentrer dans l'appartement et d'arriver à la page 260 dans cette fameuse cache dont on parlera tout à l'heure, le premier chapitre, ce que vous avez accepté de lire... commence par un voyage dans Paris, dans cette fameuse Fiat 500 qui est garée au plus près de la porte de la cuisine pour qu'il y ait le moins de morceaux de cour à parcourir. Et je vous laisse lire.
Je ne les ai jamais vus sortir à pied, seuls ou même de conserve, accomplir cet acte tout simple qui consiste à déambuler le long d'un trottoir. Ils ne s'aventuraient hors de la maison que motorisés, assis l'un contre l'autre, à l'abri d'une carrosserie, derrière un blindage, même léger. Dans Paris, il circulait à bord d'une Fiat 500 Lusso de couleur blanche. Une voiture simple, maniable, rassurante, à leur échelle, avec sa rotondité, sa taille naine, son compteur de vitesse gradué jusqu'à 120 km/h, son moteur bicylindre à l'arrière qui produisait un râle, un touc-touc de vieux canaux crachotants. Il la garait dans la cour pavée, face au portail, prête à partir, le long de l'aile principale, presque agglutinée au mur, comme la capsule de sauvetage d'une fusée. Sa portière avant droite tournait invariablement vers l'entrée de la cuisine. Pour l'atteindre, il n'avait qu'un petit escalier en pierre à franchir. Afin de faciliter la descente, un degré supplémentaire avait été taillé dans une portion de marche à mi-hauteur. Une fois en bas, il ne leur restait qu'à plonger à l'intérieur de l'habitacle en s'agrippant à la poignée. Ils n'abandonnaient personne derrière eux. Nous partions tous ensemble. Elle au volant, lui à côté d'elle, Jean-Élie, Anne et moi entassés sur la banquette arrière. Elle portait des lunettes très grandes, avec une monture marron clair et des verres ovales légèrement teintés. Avant de tourner la clé, elle se penchait vers la petite glace, fixée au dos du pare-soleil, tapotait ses cheveux de la paume pour les faire gonfler en coque, tendait ses joues, esquissait un sourire en cul de poule pour inspecter son fond de teint et son rouge à lèvres, puis démarrait dans un bruit de casserole répercuté par les façades. Aux commandes de sa pétrolette, qui à chaque tour de piston était prise de violents tremblements, elle se transformait en cyborg. Elle ne faisait qu'une avec sa machine. Ses jambes mortes, ne pouvant appuyer sur des pédales, de longues manettes, sortes de manches à balai comme dans de vieux coucous, avaient été ajoutées avec la complicité de je ne sais quel garagiste, afin de lui permettre de freiner, d'accélérer, donc de conduire, ce qu'elle faisait à une vitesse appréciable avec des pointes à chaque fois qu'elle croisait un piéton en train de traverser hors des clous. Elle fonçait avec une joie rageuse, de préférence sur les vieillards claudiquants mais autonomes, pour les punir de leur peu de liberté de mouvement et effrayer ses passagers. Elle n'a jamais écrasé personne, j'ignore si elle possédait un permis, et si oui, par quel stratagème elle l'avait obtenu. Elle adorait ça. C'était sa chaise roulante, ses jambes retrouvées, sa victoire sur son immobilité forcée.
Voilà, donc ça commence comme ça. Et vous dites, nous avions peur de tout, de rien, des autres, de nous-mêmes, de la nourriture avariée, des œufs pourris, des foules et de leurs préjugés, de leur haine, de leur convoitise, de la petite comme de la grande histoire, des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels, de la réversibilité des hommes et de la vie, du pire, car il est toujours sûr. Et cette appréhension, ma famille me l'a transmise très tôt, presque à la naissance. Alors, avec un héritage comme ça, on se demande comment vous avez fait pour devenir grand reporter et journaliste.
Parce que... C'est vrai que la peur était toujours là. Je pense qu'elle est toujours là. Et c'est une peur multiforme, hein, diffuse. Mais c'était une peur. Il y a des peurs qui paralysent. Il y a des peurs qui peuvent aussi vous faire agir. Et je pense que comme le danger commençait dès le porche de cette maison franchie, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin que finalement... Je suis allé dans des pays plus lointains, c'est peut-être à cause de ça. Et aussi parce que comme on vivait replié un peu du hors du monde, ça a développé chez moi et chez d'autres une curiosité. On avait envie de savoir comment c'était de l'autre côté. Et puis je pense aussi que j'ai voulu, dans mon métier de journaliste, remplacer des peurs plutôt fantasmées par des peurs réelles, des grands méchants loups par des gens plus sérieux dans leur méchanceté.
Et c'est en journaliste que vous avez mené l'enquête sur cette famille, par exemple. Donc la famille, on l'a compris, elle commence avec le grand-père et la grand-mère. Et pour retrouver les traces du grand-père, vous êtes allé, par exemple, à Odessa, la ville sans juifs, d'où il était originaire, et où aucun membre de votre famille n'avait mis les pieds.
Alors, je ne crois pas que ce soit une enquête journalistique du tout, parce que le seul moment, justement, dans le livre, c'est vraiment un roman, dans le sens où c'est quand même mon imaginaire. Hein, et par ailleurs, je décris des scènes où je n'étais pas. Quand la police française fouille l'appartement 42, je n'y suis pas, évidemment. Mais le seul moment où je redeviens journaliste, effectivement, c'est quand je me rends à Odessa, d'où mon grand-père est originaire, enfin ses parents. Et là, je brise un tabou parce que mes grands-parents, donc on voyageait énormément en voiture. Hein, ils sont allés beaucoup d'ailleurs en Union soviétique. Ils sont allés à Moscou, à Leningrad, enfin dans plein d'endroits. Et quand ils sont arrivés aux portes d'Odessa, parce que ses parents ont quitté donc la Russie tsariste à la fin du 19e, hein, au moment des pogroms, et il a refusé de rentrer dans la ville. Il a eu peur. Il a dit non. Et ils ont continué leur route. Ils sont allés jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas voulu rentrer dans cette ville. Je pense d'abord qu'il a eu peur de confronter ce que ses parents lui avaient raconté avec la réalité. Et donc moi, j'y suis allé comme journaliste, parce que c'était sur fond de guerre en Ukraine. Et il y avait eu un massacre assez épouvantable deux, trois semaines plus tôt dans cette ville. Et effectivement, je n'ai rien trouvé. C'est le seul moment où je redeviens journaliste, et c'est un échec complet. Je ne trouve rien, rien du tout. Je ne sais pas trop ce que j'allais trouver, d'ailleurs, ou ce que je cherchais. Est-ce que c'était des noms, des lieux, des adresses, des histoires? J'ai frappé à toutes sortes d'administrations. À chaque fois très très kafkaïen, et j'ai même fait appel à une dame qui est archiviste à l'université d'Odessa qui fait ça pour des familles, ce type de recherche, et il n'y a rien pour plein de raisons, parce que je pense que l'URSS a c'est une sorte de grande broyeuse hein, de la mémoire. Hein, qui est, et parce que l'orthographe du nom, comme beaucoup d'immigrants, traduire un nom du caractère cyrillique en caractère latin, vous ne savez jamais exactement comment le nom à l'origine s'écrivait. Donc, si vous mettez un Y à un endroit plutôt qu'à un autre, ça change complètement. Et donc, pour toutes ces raisons, il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça, je pense, que mon grand-père n'a pas voulu aller dans cette ville. Il a eu peur de ce vide, de ce néant, et plus encore de se sentir étranger dans sa ville d'origine.
Mais du côté de votre grand-mère, l'enquête, là, vous amenez au pays de la littérature, parce que son histoire semble sortie d'un roman d'Eugène Sue. C'est une pauvre petite fille... une petite fille pauvre, adoptée, puis héritière d'une riche marraine, votre mère grand, comme vous l'appeliez. Comme elle voulait qu'on l'appelle, avec une espèce de paradoxe entre la mère grand et le loup.
Oui.
Elle était d'emblée un personnage très romanesque.
Oui, tout à fait. Elle est... Alors, elle vient d'un elle a une toute autre histoire. Elle vient, elle, de l'ouest de la France, famille bourgeoisie catholique, plutôt traditionnaliste. Son père était un avocat, mais sans cause. Enfin, il avait défendu l'Église pendant l'affaire des inventaires. Il a même été, je crois, décoré par le pape. Mais il avait jamais réussi à gagner un centime. Il était devenu morphinomane. Et donc, elle est la septième enfant. Ils sont incapables de l'élever. Et donc, ils vont la confier à sa marraine. Donc, elle dit qu'elle a été vendue même à une femme qui est une femme un peu fantasque, comme ça, célibataire, romancière également, et qui ne sait pas trop comment élever un enfant. Et donc, elle va en nourrir une très grande souffrance hein, d'avoir été arrachée à ses frères et sœurs et à ses parents. Et ensuite, elle va attraper, elle va faire des études de médecine et attraper la poliomyélite pendant ses études. Et donc, elle devient handicapée. Et c'est une femme vraiment qui part en guerre. C'est une toute petite femme, toute frêle, qui doit mesurer à peine 1m60, un peu moins, et qui doit peser 30, 35 kilos, 40 kilos, même vraiment rien. Et qui est vraiment de l'énergie pure. Et qui refuse tout ce qui marque. Tout ce qui marque, c'est-à-dire, elle refuse son infirmité, elle refuse de se déplacer avec des cannes. Elle s'appuie sur ses enfants pour se déplacer. Donc, elle dit, mes enfants sont mes cannes. C'est aussi une des raisons pour expliquer cette névrose familiale, hein, ce délire obsidional. Elle a besoin que les siens soient toujours autour d'elle et l'accompagnent partout. Et c'est une femme très ambivalente, à la fois parce qu'elle a hérité des terres en Mayenne, mais donc propriétaire terrienne, mais quand même communiste encartée, à la fois impotente, mais omnipotente. C'est vraiment elle qui est c'est une femme très puissante, c'est vraiment elle qui est le pilier de cette famille. Et c'est vrai, je pense que c'est le personnage principal de ce livre. Et elle-même est romancière. Elle va écrire de très nombreux ouvrages, des romans pour l'essentiel, en partie autobiographiques, sous le pseudonyme d'Annie Laurent. Et je me suis aussi beaucoup appuyé sur cette matière-là pour ce livre.
Alors, entre ce grand-père et cette grand-mère, entre ce milieu d'origine catholique, pour moi, votre grand-mère, c'est vraiment une mère juive, alors qu'elle est d'origine...
Absolument. Elle va devenir plus mère juive que les mères juives, oui. Elle va essayer de... Mon grand-père donc fait partie de ces enfants d'immigrants qui ont un amour éperdu pour la France, pour la République, qui s'est porté volontaire pendant la guerre de 14,
qui s'est converti.
Qui s'est converti après la guerre, parce qu'il en revient quand même très traumatisé. Il a été au chemin des dames, il a tenu un poste de secours et dans la Somme, qui devient catholique, qui est confronté à un antisémitisme assez virulent dans le monde hospitalier français dans les années 30, et puis ensuite à la guerre, aux lois de Vichy, aux ordonnances allemandes, et il va devoir disparaître. Donc c'est un homme très blessé, très traumatisé, c'est un homme de silence. C'est un médecin, mais c'est un médecin qui ne supporte pas la vue du sang, donc qui s'évanouit littéralement quand il voit quelque chose qui ressemble à du sang, viande comprise. C'est un médecin très scrupuleux, mais dès qu'il a un malade un peu sérieux, ça l'angoisse beaucoup, donc il se débarrasse il le refile à un de ses collègues. C'est un homme qui a peur des portes, des fenêtres, qui finalement ne se sent bien que dans un lieu clos et étroit. Et donc effectivement, ils forment l'un l'autre un curieux attelage.
Un curieux entre deux, en fait, entre riche et chiche, bourgeois, bohème, juif et catholique. Et entre les deux, il y a cet entre-deux, donc la fameuse cache que vous appelez aussi l'entre-deux, qui est une aberration architecturale. Mmh.
Et que vous pouvez c'est un tout petit espace entre la chambre et la salle de bain. Il y a un dénivelé, en fait, parce que c'est entre le bâtiment principal et l'aile droite. C'est une petite pièce, c'est à peine comme une sorte de grand cagibi, hein, sans fenêtre. Et où effectivement, enfin, je ne devrais peut-être pas le dévoiler pour les gens qui veulent vouloir lire ce livre, mais où effectivement va être aménagée la cache, justement, pendant la guerre. Mais c'est le lieu où il se sent le mieux, parce que beaucoup de juifs se sont cachés dans la guerre. Ceux qui ont survécu se sont cachés, évidemment. Pour la plupart, il y a eu aussi un nombre très, très restreint de gens qui sont revenus des camps. Mais ceux qui ont... Ce qui est paradoxe particulier à cette histoire, c'est que mon grand-père a continué à vivre à côté de sa cache. Et donc, il ne l'a finalement jamais quitté. Et c'était vraiment l'endroit où il se retrouvait, où il avait ses objets auxquels il tenait le plus. Il appelait sa cache son « ça me suffit ». Il avait comme ça des mots très doux pour sa cache. Et la cache existait toujours. Elle existait... quand j'étais petit, il y avait cette trappe qu'on soulevait et ce trou noir très profond.
Vous l'avez visité ?
J'avais interdiction de rentrer dedans. C'était pas très très haut, ça devait faire 1,30 m de hauteur et à peu près pareil en largeur. Ils avaient peur que je tombe, donc je suis jamais rentré dedans. Mais comme tout dans ce lieu était ambivalent, c'était... En fait, c'est le monde de l'enfance hein, que je raconte. Et c'est un monde d'enfance qui est fait d'émerveillement, comme toutes les enfances, hein, d'émerveillement et d'effroi. Et cette cache est un lieu à la fois attirant, comme une sorte de cache au trésor, de cache aux merveilles, et en même temps un lieu très terrifiant, parce que c'est associé à des choses très, 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 très lourdes.
Mais ce qui reste à la lecture de ce texte, c'est quand même le côté merveilleux. On a vraiment envie d'être enfant dans cet appartement-là. Parce que vous racontez l'enfance de vos oncles et tantes qui ont très peu de différence d'âge avec vous. Votre enfance, on a l'impression qu'avec ces deux figures de grands-parents ou de parents, tout le monde reste enfant et tout le monde reste en train de jouer.
C'est pour ça que j'ai voulu conserver, même dans la forme, cet aspect ludique, de n'en faire comme presque comme un jeu. Donc j'ai pris un peu la forme du tableau de Cluedo, où on se déplace de pièce en pièce, où on convoque à chaque fois un personnage, Colonel Moutarde, Mademoiselle Rose, etc. Et donc c'est un peu pareil, sauf que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'élucider un meurtre, mais une disparition.
Mais ce n'est pas simplement une métaphore, puisque vous jouiez avec votre oncle, qui est devenu le plasticien qu'on connaît, vous squattiez la moitié de l'appartement avec vos installations, vos petits soldats, vos planches. Visiblement, il n'y avait pas de censure. Enfin, les grands-parents ou les parents s'en fichaient.
Non, c'était un lieu très libre. C'était un lieu très, très libre.
À l'extérieur, on avait peur de tout, mais à l'intérieur, tout était possible. Et ça donne vraiment envie d'être enfant dans cet appartement-là. Alors... C'est une histoire, on ne va pas la dévoiler, c'est une enquête. L'éditeur a mis roman, a dit que c'était un roman, mais c'est aussi c'est surtout pour moi un objet littéraire, un pur objet littéraire, avec un très grand décapage du vocabulaire que vous rappez comme ça littéralement. Par exemple, votre grand-père était médecin et on a l'habitude de parler du milieu hospitalier. Et vous, vous dites du milieu dit hospitalier. Et là, les collègues de votre grand-père antisémites, enfin les collègues ne sont
pas tous, mais certains, oui.
Voilà. Vous dites aussi que votre famille ne vivait pas recluse, mais soudée. Mais c'est littéral. Ils sont vraiment soudés. La grand-mère, elle est portée par les deux, par votre oncle et votre tante. Enfin,
oui, nous sommes ces membres manquants. Nous sommes des sortes de prolongations de son propre corps, un petit peu.
Et le texte est vraiment jubilatoire parce que tous les mots sont à prendre littéralement. Et c'est aussi un texte en forme de collage documentaire avec des matériaux très, très divers. Donc il y a les extraits des romans qu'écrivait votre grand-mère. Il y a la liste des ingrédients de ce que vous appelez la cuisine gigogne, puisque vous mangez un peu n'importe quoi.
On invite beaucoup de
10 personnes, et puis l'oncle Jean et Lydia, ça tombe bien, j'ai acheté 3 éclairs au café, donc c'est bonbonce. Donc moi, ça me parle, parce que c'est ma génération.
Manger beaucoup de boîtes.
Voilà, la crème Mont Blanc, le couscous Garbite, les raviolis Buitoni, les flageolets Casse-Grain et le lait Gloria. Mais il y a encore plein d'autres matériaux qui constituent la pâte.
Oui, j'ai même mis dans le livre un poème de mon père, parce que mon père a écrit de la poésie.
Votre père qui est sociologue, qui n'a pas vocation. Enfin...
Qui est par ailleurs sociologue, oui, tout à fait, mais aussi poète. Mais... j'ai mis un tract. Enfin, j'ai utilisé tous ces éléments familiaux, parce que ce n'est pas du tout une biographie dans le sens classique du terme. D'abord parce qu'il y a des gens très proches qui ne sont pas dedans. Ce n'est pas un récit chronologique, linéaire. Il n'y a pas une volonté d'exhaustivité comme dans une biographie. Il n'y a pas... j'ai utilisé ces matériaux comme tels pour reconstruire quelque chose, comme justement pour essayer de reconstruire cette maison, comme on reconstruisait petit justement ces villes bombardées. Alors le lieu est assez décatim, peut-être pas aussi désolant que ce qu'on fabriquait quand petit, mais voilà. Donc c'était ça mon intention, c'était d'utiliser ces matériaux comme des sortes de petites briques, un petit peu.
Oui, c'est vraiment une patte littéraire incroyable, avec un goût des mots incroyable. Et c'est vrai que la réalité a l'air très romanesque à la base, mais vous en avez fait un objet littéraire très, très réussi et très séduisant. Merci. Moi, j'avais une dernière question. Avec toutes ces anecdotes, toutes ces descriptions, tout est très visuel dans la cache, ne serait-ce que parce qu'il y a le plan. Est-ce que, si c'était un film, je sais que vous aimez Truffaut, mais là, on ne peut pas le convoquer. Qui verriez-vous comme réalisateur pour adapter cette cache ?
C'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai participé à une émission de radio là, sur France Inter hier soir, et il y avait le dialoguiste du dernier métro de Truffaut, qui s'appelle Jean-Claude Grimbert, et c'était passionnant, parce qu'il racontait comment il avait participé justement à l'écriture du scénario et du dialogue. Non, réalisateur,
parce que là, le boulot de l'accessoiriste est fait, on a envie de le voir. On a envie de le voir.
Ça me demanderait un petit peu plus de réflexion. Non, je suis désolé, excusez-moi.
C'est pas pour tout de suite, de toute façon. Mais vous aimeriez le voir ou en pièce de théâtre, pourquoi pas ?
Je ne sais pas. Oui, certainement. Mais je ne sais pas.
En tout cas, voilà. Faites-vous le. Je suis pas là pour faire vendre des livres, mais faites-vous le prêter. Mais je pense qu'il faut vraiment le lire, parce que il y a une face noire. Enfin, c'est. La cache, c'est la guerre, c'est tout ce que vous avez raconté, mais c'est jubilatoire. C'est vraiment un livre jubilatoire. Encore une fois, on a envie d'être enfant dans cette enfance-là.
Merci beaucoup. Merci.